posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Bonjour à tous et bienvenue sur BFM Business. C'est parti pour l'atelier numérique en ce 2 juillet 2016. Je suis ravi de vous retrouver et je vous souhaite encore une fois un excellent week-end. Nous allons passer 2 heures ensemble, 2 heures dédiées à toute l'actualité high-tech. Vous le savez, l'atelier c'est comme ça chaque samedi 16h, 18h avec toute l'équipe de l'atelier. Tout à l'heure on retrouvera Antoine Cyr pour son crash test bien évidemment. Et autour de cette table, j'ai le plaisir d'avoir Aurore, Cécile, Sophia, Nathalie Doré, Constance et Lila. Mesdemoiselles et mesdames, bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Et oui, je suis le seul pour l'instant être masculin dans ce studio. Mais ça va pas, ça va changer quand même, puisqu'Antoine sera avec nous tout à l'heure, ainsi que nos invités. Notamment Jérémy Bensoussan qui nous rejoindra tout à l'heure. Pour notre passion selon Sanet, on évoquera avec lui le droit des robots. Sujet qui s'annonce passionnant. On retrouvera notre World Tour aussi. On ira du côté de Varsovie. Et puis on évoquera aussi une start-up qui propose une alternative aux antibiotiques en se basant sur le séquençage ADN nouvelle génération. Ce sera notre dossier. L'actualité vue par l'équipe de 01net avec Eric Le Bourlou. Le décryptage, Guillaume de Groisse, le crash test d'Antoine Cyr, notre web stratégie. Vous connaissez peut-être le site web made.com si vous êtes un fan de déco. Peut-être avez-vous acheté des meubles directement sur le web. On s'intéressera donc à cette marque qui monte tout à l'heure. Start-up de la semaine et enquête de l'atelier. Nous irons du côté du salon Vivatech qui se déroule actuellement, encore aujourd'hui d'ailleurs, à Paris, porte de Versailles. Bienvenue à vous toutes et à vous tous et on commence cet atelier par, évidemment, toute l'actu vue par l'équipe. Et on va commencer par Nathalie Doré qui nous fait l'amitié d'être avec nous dans nos studios parisiens. Nathalie qui, d'habitude, vous le savez, est du côté de San Francisco. Bonjour Nathalie.
Bonjour François.
Alors, on va parler de quoi ?
Ah, quand même de la Silicon Valley,
hein,
même si je suis là. Donc c'est Twitter qui a racheté une start-up cette semaine. Elle s'appelle Magic Pony et elle permet d'améliorer la qualité des vidéos en temps réel et même, et là ça devient intéressant, les vidéos de basse définition.
D'accord.
Donc en fait, alors là François, vous allez me dire, bon, c'est pas une grande nouvelle. Détrompez-vous, parce qu'en fait c'est intéressant à plusieurs titres. Le premier, c'est que Twitter, alors Jacques Dorsel a dit, ambitionne d'être le meilleur endroit pour voir ce qui se passe dans le monde en temps réel. Donc forcément, avoir de la bonne vidéo en temps réel, c'est un must-have pour eux. Deuxième info intéressante, c'est que Twitter compte vraiment sur la publicité pour se développer. C'est aujourd'hui 90% de leur revenu. Et cette publicité, eh bien, dans l'avenir, elle va être de plus en plus sur les vidéos. Et d'ailleurs, Twitter a plusieurs partenariats. Ils ont un partenariat avec la NFL, qui est la ligue de football américain. Et du coup, en exclusivité, aujourd'hui, ils retransmettent en streaming les matchs de la ligue. Donc voilà, ça permet à Twitter de se positionner, de proposer de la vidéo et de la publicité associée aux jeunes consommateurs américains qui sont pas forcément en train de regarder de la télé traditionnelle.
Et puis il faut pas laisser Facebook prendre de l'avance dans le domaine de la vidéo, car on le sait, ils sont présents, très présents.
Ouais, ils sont tous en train d'investir dessus et c'est un peu la chasse à la meilleure solution, à la meilleure audience. Et donc là-dessus, Twitter marque un point en rachetant Magic Pony. Alors c'est une start-up anglaise, elle est basée à Londres. Elle va donc partager ses connaissances en machine learning, qui est la technologie qui est derrière tout ça. Elle a 20 brevets internationaux et elle va faire ça pour Twitter désormais. Alors, c'est une belle sortie pour la start-up. Elle a quand même, Twitter l'a acheté $150 millions. Et c'est un bel atout technologique pour Twitter qui ne cesse donc d'investir pour se renforcer. Rappelez-vous, mi-juin, ils avaient investi $70 millions pour le service de partage de musique allemand SoundCloud. Donc, voilà, ils mettent tous les efforts pour redresser la barre et c'est plutôt bien parti.
Et Twitter en a besoin. Il faut absolument qu'ils redressent la barre. Aurore Géraud.
Oui, bonjour. Alors bonjour. Moi, je vais vous parler de digital working et de l'ère de la vidéoconférence sécurisée. Alors, l'ère de la vidéoconférence sécurisée, pourquoi ? Depuis quelques années, quand on fait du télétravail, on va avoir par exemple son appartement derrière et ça va pas être très chouette pour la personne en face.
C'est vrai.
Ou alors on va être dans ses propres bureaux et là on va avoir derrière des informations qui peuvent être importantes mais qui ne doivent pas être diffusées.
Comme par exemple le mot de passe de votre session internet.
Tout à fait.
Comme ça a été le cas sur différents médias.
Le nouvel iPhone, le nouveau test du nouvel iPhone derrière et mon Dieu, Mark Zuckerberg a fait une bêtise, il a donné le code de n'importe qui de Facebook. Enfin, attention, attention, attention les gens. Alors, l'université de Duke a décidé de créer une application qui permet de recadrer, tout simplement. Alors, ce qu'on peut voir en général sur des photos, quand on tronque une photo, eh ben, on peut recadrer sa vidéo désormais.
Ah oui.
Donc,
d'accord.
On réduit l'écran pour qu'on voit vraiment le visage de la personne et qu'on cache l'arrière-plan.
Ça enlève les boutons quand même, enfin, c'est.
Non,
ça
j'ai pas dit éditer pour avoir un beau visage.
D'accord.
Et
dommage.
Par-dessus ça, d'autres universitaires ont décidé de créer la version floutée, où on va avoir tous les éléments qui peuvent être importants et sécurisés qui seront floutés derrière la personne, sachant que ce test n'est pas particulièrement bon, étant donné que ça, c'est lié à une liste d'éléments qui vont être blacklistés et que la technologie va pas pouvoir voir tous les éléments qui ont nécessairement
besoin. Donc il y aura des choses qui
ne
seront pas floutées. Quoi, en fait.
Tout
c'est
à
ça.
Fait.
Ouais.
Voilà, donc l'ère de la vidéoconférence sécurisée.
Très bien, on enchaîne avec Constance maintenant pour sa petite news.
François, vous connaissez sûrement les employeurs qui épluchent les réseaux sociaux des candidats afin de déterminer si la personne peut convenir pour le poste.
Bien sûr, c'est de plus en plus à la mode, ça.
Et bien maintenant, figurez-vous que ça va arriver aussi pour les appartements, quand les propriétaires seront à la recherche de leurs locataires. Alors, c'est l'entreprise qui s'appelle Score Assured qui propose aux propriétaires un service payant d'analyse des données des réseaux sociaux de leurs locataires qui s'appelle Tenant Assured. En gros, ceux qui veulent avoir une chance de décrocher l'appartement doivent autoriser le système à avoir accès à l'ensemble des réseaux sociaux, aussi bien LinkedIn, Twitter que Facebook. Et la plateforme utilise ensuite des algorithmes pour déterminer le niveau d'inquiétude, enfin de stress financier de l'utilisateur. Et il y a un rapport qui est produit avec, par exemple, le profil psychologique du locataire, la récurrence dans ses messages privés de certains mots comme emprunt, pauvre, être sur la brèche, voilà ce genre d'expression qui permet de savoir s'il y a des risques de s'inquiéter. Et à la fin de ce rapport, il y a une note qui va être donnée à l'utilisateur et qui va permettre au propriétaire de savoir si le locataire a de grandes chances en fait d'honorer son loyer. Alors l'entreprise, pour le moment, songe à étendre ce service pour le recrutement ou encore le marché de la rencontre en ligne aussi, mais ça risque d'être peut-être compromis puisqu'il y a une pluie de critiques au Royaume-Uni qui a commencé depuis que le produit est sorti, il y a quelques semaines.
Vous savez qu'on ne parle plus du Royaume-Uni maintenant, c'est fini.
Le Royaume des Unis, voilà le nouveau nom.
C'est ça. Merci beaucoup Constance. On enchaîne avec Cécile.
Alors je vais vous proposer de parler un petit peu de e-commerce, de faire un point sur les nouveautés que j'ai trouvées cette semaine. Donc la première, c'est
vous avez acheté des chaussures, une nouvelle paire de chaussures.
Exactement, pendant les soldes. Voilà. J'ai pu un petit peu faire un benchmark de ce qui se passe.
Mais oui, belle investigation Cécile.
C'est ça.
Je vous félicite.
Toujours très investi pour cette émission.
Bravo.
Donc la première, c'est la nouvelle fonctionnalité du réseau social Pinterest. Vous savez, ce réseau, vous pouvez épingler des images sur le web grâce à un petit bookmark sur votre navigateur. Depuis un an, vous pouvez également acheter les objets qu'on trouvait sur Internet avec un autre bookmark, toujours sur Pinterest. Et aujourd'hui, ça va encore plus loin. On peut se constituer tout un panier de produits de différents sites web et payer l'ensemble en une seule transaction sans passer par le site de chaque produit.
Pratique.
Donc, hyper pratique pour les amateurs de soldes comme moi, par exemple, parce que j'ai plus besoin d'aller sur chacun de mes sites. Je pourrais faire tout un panier en une fois. Donc ça, c'est la première nouveauté que j'ai repérée. Et ensuite, on pourrait peut-être bientôt chercher nos achats sur un site internet en les dessinant. C'est l'université Queen Mary de Londres qui a développé un moteur de recherche pour les e-commerce où l'utilisateur va dessiner ce qu'il souhaite trouver. Il n'y a pas besoin d'être un grand illustrateur, je vous vois venir, hein,
oui.
Puisque la base de données est enrichie avec 30 000 comparaisons de dessins et de photos.
Parce que moi, si je dessine une paire de chaussures, que ça ressemble par exemple à une tranche de jambon,
voilà,
qu'est-ce qui va se passer?
C'est sûr. Et ben, un simple ovale suffit pour repérer une chaussure. Encore une fois, je vous invite à regarder sur internet une vidéo qui montre que c'est très facile. Les chercheurs de Queen Mary indiquent que pour certaines catégories d'objets, les 10 premiers résultats correspondent à 100% avec l'objet qui est recherché. Et ils estiment que cette méthode est beaucoup plus précise que les méthodes textuelles actuelles qui seraient trop restrictives puisque ça fonctionne avec des tags que les marques vont choisir. Mm-hmm. Donc si vous n'avez pas le même mode de pensée que la marque, en fait, vous n'avez pas trouvé cette paire de chaussures dont vous rêvez tant. Et donc quand on pense un peu aux applications, on peut penser que cette innovation pourrait servir à pallier des problèmes de traduction des sites internet. Ça pourrait du coup être...
Oui, parce que c'est vrai que le dessin est universel finalement.
Exactement. Et ça pourrait peut-être aussi aider des personnes à mobilité manuelle réduite ou encore des personnes âgées pas très à l'aise avec la recherche sur Internet qui pourraient faire un simple dessin et trouver un livre plutôt facilement.
Ou même les enfants.
Exactement.
Qui pourraient acheter encore plus tôt.
Voilà, et là c'est un peu plus flippant.
Là c'est un peu plus flippant. Bon, qu'est-ce que vous avez acheté pendant les soldes, Cécile? Non, je plaisante, regardez ça, c'est votre
vie
privée.
Ah mais
avec Aurore, on va flouter tout ça grâce à votre algorithme, Aurore. On enchaîne avec Sophia.
Alors moi, je vais vous parler d'une intelligence artificielle qui voit tout et entend tout.
Oula.
Grâce au machine... très sympa, vous allez voir. Grâce au machine learning, l'application RedEye se souvient de tout ce que l'utilisateur fait pour pouvoir en fait ensuite lui fournir des informations précises. Donc par exemple, l'outil va pouvoir dire précisément qui l'utilisateur a rencontré et où il est allé. L'idée, c'est vraiment d'avoir un assistant personnel pour suppléer notre mémoire en cas d'oubli. Et ce sont des chercheurs de l'université Rice à Houston, au Texas, qui sont à l'origine de RedEye. D'après eux, en fait, cette technologie, elle serait facilement utilisable sur un wearable et sur tous les appareils que les gens portent sur eux au quotidien. Parce que pour les experts, cette tendance, en fait, qui consiste à anticiper les besoins des utilisateurs et les satisfaire directement, se développe. Donc ça s'appelle l'informatique omniprésente ou l'intelligence ambiante, mais ça implique quand même d'équiper les appareils pour qu'ils puissent voir et entendre la même chose que nous. Et jusqu'ici, ça posait quand même problème. Mmh. Mais d'abord parce que la technologie était un peu trop consommatrice d'énergie. Un peu comme quand on filme en continu avec son téléphone. Mais l'équipe de RedEye a réglé ce problème en plaçant un capteur de vision qui n'enregistre pas tout ce qu'il se passe en continu, mais le détecte et retient simplement l'information. En fait, l'application utilise une structure algorithmique inspirée par l'organisation du cortex visuel animal. Donc, par exemple, elle va distinguer...
C'est bien balancé, ça, franchement, Sophia. Bien joué.
Alors, ce que je voulais dire par là, c'est qu'en fait, elle distingue les chats des chiens. Ah, oui. C'est un peu comme les animaux, ils voient pas précisément l'image, mais ils comprennent ce qu'ils voient. En fait, ils ont une compréhension de l'image. Mmh. Et donc, le fait de garder en mémoire uniquement certaines informations, ça permet d'économiser de la batterie. Et c'est aussi pratique pour des raisons liées à la vie privée, parce que personne n'a envie de se sentir surveillé par un appareil toute la journée. Donc là, on peut le configurer pour rejeter automatiquement certaines informations ou certains types d'images.
D'accord.
Et puis l'idée aussi, c'est que après la vision et l'ouïe, c'est que les créateurs de RedEye développent une technologie capable de garder en mémoire le goût et le toucher.
Eh bien, dites-moi. Bon, c'est rassurant tout ça. Merci beaucoup, Sophia. Lila Megraoua.
Oui, je parlais d'un sujet qui devrait parler à mes consoeurs, mais fort peu, très probablement à vous, François.
Écoutez, je suis curieux. Je parlais
de femmes enceintes.
Ah oui, ça c'est sûr que...
Ouais. Ouais. Alors, figurez-vous qu'en Corée du Sud, les femmes enceintes auront désormais leur siège en métro, en transport en commun maintenant. Alors,
Un siège spécial femme enceinte.
Je vais vous expliquer. Assez souvent, les femmes enceintes en transport en commun ont certaines difficultés à trouver une place assise. Bon, bah, désormais, ça devrait être terminé dans la ville de Busan, en Corée du Sud, puisqu'en fait, la ville vient de lancer un nouveau système pour faciliter la vie de ces femmes enceintes. Mmh. Alors, comment les femmes doivent se déplacer alors, le principe, elles rentrent dans la rame de métro.
D'accord.
Les personnes assises sont alertées de leur présence grâce à une lumière rose qui leur indique de laisser
attention,
la place.
Elle va accoucher. Non,
non,
quand
attention,
même pas.
Alerte, femme enceinte.
Oui.
Alerte, petite lumière rose.
D'accord.
Alerte, femme enceinte.
Donc tout le monde lève la tête de son smartphone, voit cette petite lumière.
Cette petite lumière voit la femme enceinte
arriver.
Arriver.
Oui.
Arriver dans la rame de métro et si tout se passe bien, l'un des passagers ou des passagères va céder sa place. Sauf que le système fonctionne, les femmes doivent se déplacer avec un petit capteur à l'extérieur de leur sac ou de leur manteau. Alors celui-ci est fourni par le système de transport de la ville. Elle demande des femmes qui viennent d'apprendre qu'elles sont enceintes. Et ensuite, en fait, ces petits capteurs vont émettre via Bluetooth pour déclencher cette alerte lumineuse. Donc, la batterie de ces capteurs est de 6 mois, ce qui peut plus ou moins correspondre à la période un peu difficile.
Où on a un gros ventre, on va dire.
Exactement.
D'accord.
Voilà.
Bon.
Donc là, pour l'instant, c'est en expérimentation. Mm-hmm. Si ça marche, ça devrait être étendu à l'ensemble des lignes de la ville de Busan. Après, on peut se demander s'il ne suffirait pas simplement d'apprendre politesse et
exactement,
la
un peu,
civilité.
Un peu de civilité, on est d'accord.
Exactement.
On n'est pas obligé d'avoir un truc Bluetooth accroché.
Merci, technologie.
C'est un peu bizarre, hein, tout ça.
C'est vraiment gentil.
Merci, Lila. On enchaîne avec Cécile.
On va continuer sur les capteurs puisque, vous savez, il y a de plus en plus de capteurs et d'applications pour analyser votre sommeil, vous dire comment vous avez dormi et comment améliorer ce sommeil-là avec des conseils pour optimiser les prochaines nuits. Moi, je vais vous parler d'un appareil qui va vous aider à optimiser vos nuits en amont, en fait. J'ai découvert Sleep Pill, un petit objet rond à mettre sur la table de nuit qui non seulement analyse votre sommeil et vous donne des conseils, mais va surtout analyser votre environnement de sommeil avant, c'est-à-dire la chaleur de votre chambre, l'humidité, la lumière, le bruit, etc. Donc c'est avant de vous coucher, Sleep Pill s'allume, indique si les paramètres sont bons, avec une lumière verte si c'est ok, une lumière jaune si c'est moyen, et une lumière rouge si ça va pas du tout.
Oui, si par exemple il y a un marteau piqueur à côté, la lumière verte n'arrivera pas.
Par exemple.
C'est ça.
Mais ça vous permet en fait, avant de vous coucher, de savoir quels sont les paramètres que vous pourriez modifier pour dormir, et non plus attendre le lendemain de découvrir que votre iPhone vous dit « Coucou, tu as très mal dormi parce qu'il faisait chaud, merci, j'avais remarqué en fait, puisque j'ai passé toute la nuit à me retourner ».
Et oui.
Donc les choses un petit peu évidentes comme ça. Et donc voilà, je trouve ça intéressant parce qu'on change complètement la façon de penser de ces applications. On prévient plutôt que le dire le lendemain. Et une fois que c'est trop tard, et je pense qu'on n'a pas besoin de son téléphone pour savoir si on a mal dormi, on a besoin de son téléphone pour savoir si on va pouvoir bien dormir.
Exactement. Et c'est déjà disponible ?
Pas encore.
Pas encore. Et ça s'appelle comment ?
Sleep Pill.
Sleep Pill.
C'est américain.
Parfait. Qu'est-ce qu'ils sont forts, ces Américains ? Nathalie ?
Je ne dirais pas le contraire. Non, mais ce qui est vrai, alors on peut dire pour la chaleur et le bruit, on n'a pas forcément besoin d'une application, mais le niveau de CO2, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, qui est complètement impossible à détecter et qui est souvent trop élevé parce qu'on n'ouvre pas la fenêtre. Donc c'est vrai que les capteurs, pour ça, aident et ça évite d'avoir des maux de tête, d'être mal et du coup de mal dormir.
Il y a notamment la station Netatmo
qui
permet de mesurer le taux de CO2 qui est à l'intérieur de la maison.
Ouais.
C'est d'ailleurs intéressant parce que moi j'en ai une, et dès qu'on est plusieurs par exemple dans la pièce au bout d'un moment et qu'on parle, etc., et ben voilà, le taux de CO2 monte et je reçois une petite alerte sur mon smartphone. Ça, c'est amusant. Vous restez avec nous, la suite de l'atelier numérique dans un instant sur BFM Business avec le Silicon Carnet et les gadgets de Constance et Cécile. À tout de suite.
L'atelier numérique. François Sorel sur BFM Business.
L'atelier numérique sur BFM Business. Dans quelques instants, la sélection de gadgets de Cécile et de Constance cette semaine. Et puis, notre start-up de la semaine, ce sera Pécard. Et notre enquête de l'atelier nous emmènera du côté du salon Vivatech qui se déroule actuellement à Paris, porte de Versailles. On retrouvera Lila Megraoua. Mais dans l'immédiat, c'est notre Silicon Carnet avec Nathalie Doré qui est avec nous dans nos studios parisiens. Salut Nathalie.
Bonjour François.
Et oui, d'habitude Nathalie est avec nous depuis San Francisco, mais là on est ravis de l'avoir avec nous dans ce studio. Nathalie, on va parler cette semaine d'agriculture. Qu'est-ce qui se passe dans la Silicon Valley en ce moment ?
Ben écoutez François, il y a une prise de conscience, hein, on va le dire, sur le fait qu'on peut pas continuer comme ça. On va être de plus en plus nombreux sur la planète, on va consommer de plus en plus, on va être de plus en plus loin du centre de production puisqu'on va vivre de plus en plus en ville. Donc voilà, tous ces facteurs font qu'il faut réagir. Il faut arrêter de gaspiller, il faut consommer différemment. Et du coup, les Californiens se sont vraiment emparés du sujet.
Alors finalement, US et France, même combat hein, dans ce domaine. Hein.
Oui, c'est vrai. Alors, ce ne sont pas des agriculteurs tout à fait pareils en termes notamment de taille, hein, parce que les tailles des agriculteurs, des exploitations agricoles aux États-Unis sont beaucoup plus grosses. Mais finalement, ils ont un peu les mêmes besoins. Et les besoins, en fait, on se rend compte que l'agtech, hein, donc les technologies en agriculture, eh ben, peuvent répondre au challenge qui se pose aujourd'hui. Et du coup, eh ben, on a étudié une petite centaine de start-up américaines qui sont dans la vallée et qui proposent des solutions alors plutôt basées sur la data et sur les capteurs et qui permettent de récolter la bonne information pour produire différemment.
Et ça marche tout ça ?
Oui, oui, oui. Alors on voit hein, les gains qui sont annoncés, ça fait rêver, puisqu'en fait ça va permettre aux agriculteurs d'alléger leurs factures, par exemple de graines, de fertilisants, de pesticides de 15%, alors en plus ça sera plus écolo, leurs factures d'eau de 30% avec toutes ces solutions en water management, en irrigation, et aussi de réduire leurs pertes de récolte de 25% s'ils utilisent mieux les infos météo.
Alors c'est prometteur, mais pourquoi on n'en entend pas plus parler ?
Alors, bon, déjà, il y a un existant. On part pas de zéro. Les agriculteurs ont commencé à s'équiper, mais en fait, le constat, c'est qu'ils peuvent faire mieux. Aujourd'hui, par exemple, aux États-Unis, il y a 39% des agriculteurs américains qui utilisent des capteurs pour mesurer les céréales. C'est déjà un existant, mais c'est quand même, il y a encore une marge de progrès. Et en fait, il y a des freins. Alors, le premier frein, il est en termes d'infrastructure. 70% des Américains ont accès à Internet. Il y a 30% des agriculteurs qui n'ont pas accès. Et 73% un ordinateur. Donc là-dessus, par exemple, Hillary Clinton en a fait son cheval de bataille en disant qu'il faut de l'Internet pour tout le monde. Donc ça va dans le bon sens. Ensuite, il y a un deuxième frein qui est un frein d'investissement, puisqu'en fait, les startups qui proposent ces solutions qui permettent aux agriculteurs d'économiser, bah, finalement, il faut quand même investir au début pour les mettre en place. Et ça, c'est un frein. Et puis le dernier, je dirais, il y a un manque d'informations sur les solutions qui existent et leurs bienfaits. Donc ça pèse. Et puis enfin, un manque de confiance dans la data, puisque tout ça, on va récolter des data et les agriculteurs savent pas trop ce qui va en être fait un peu à leur insu. Donc faut aussi les rassurer.
Ils ont un petit peu peur. Alors c'est ce qu'on appelle finalement de l'agriculture de précision. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets?
Oui, parce que c'est vrai qu'il y a vraiment des choses super qui se font et qui sont très concrètes. Alors par exemple, détecter les épidémies en avance de phase, avant que ça ait fait des dégâts. Doser l'exacte quantité de médicaments et de pesticides pour soigner des bêtes ou des plantes. Mesurer la croissance des plantes en temps réel. Il y a des robots qui existent qui vont compter en fait les fruits sur les arbres, par exemple. Et il y a un algorithme qui va évaluer la maturité du fruit pour voir si elle est bonne. C'est donc vraiment l'idée de faire de la précision. Donc c'est produire avec moins, mais aussi produire mieux.
Ouais. Et donc on rentre pleinement dans une nouvelle révolution agricole là. Hein.
Oui, on en a déjà vécu deux. Hein. La première, c'était sur la mécanisation, les tracteurs, donc pour produire plus. La deuxième, c'était celle de l'adoption des produits chimiques, donc là aussi c'était pour produire plus. Et là, on est désormais dans l'agriculture de précision. Alors souvent, ça fait penser à la santé de précision, qui est aussi une grande tendance. Et là, l'idée est de produire plus, mais ce qui est nouveau, c'est l'ambition d'être vraiment sur une agriculture responsable.
Voilà, et de produire plus avec moins.
Exactement.
Merci beaucoup Nathalie. Et on enchaîne maintenant avec la sélection de gadgets des filles de l'atelier. Dans un instant, ce sera Constance, mais on commence avec vous Cécile.
Aujourd'hui, je vous parle de robots. On en parle souvent dans cet atelier. Ils investissent de plus en plus nos vies. Et aujourd'hui, c'est la société américaine Boston Dynamics qui a construit un robot d'aide domestique 100% électrique. Ce robot prend plus ou moins la forme d'un chien. En tout cas, il avance avec quatre pattes, mais il a un très long cou.
Ah oui, j'ai vu la vidéo. C'est d'ailleurs impressionnant. Allez-y.
Hein. Voilà. Vous pouvez la trouver très facilement sur Internet, où on peut voir tout ce que ce chien à quatre pattes, enfin, en tout cas, ce robot à quatre pattes peut faire. Il a un très long cou mécanique et une gueule en forme de pince pour saisir des objets, en fait. Donc, il s'appelle Spot Mini et il est capable de trier vos ordures, de remplir votre lave-vaisselle et de nettoyer le sol en se baissant, par exemple, pour se faufiler sous la table de la cuisine.
Le rêve, quoi.
Exactement. Le rêve de toutes les ménagères et ménagers, je pourrais dire. Il a une autonomie de 90 minutes et aussi en mesure de grimper les escaliers ou de se relever en cas de chute. Donc ça pourrait vraiment être un accompagnant compagnon de vie pour les personnes les plus seules, par exemple. Il pèse entre 25 et 29 kilos, donc il est très, très léger, très agile, très précis, à peu près autant qu'un chien de taille moyenne. Et en plus, il est bien mieux dressé que les chiens habituels, ou presque, puisque si vous avez vu la vidéo, François, vous avez vu qu'à la fin, le robot amène une bière à un homme dans son canapé, mais il refuse de desserrer la gueule pour vraiment la lui donner. Du coup, la canette finit par se percer et tout se répand sur le fauteuil. C'est très marrant.
Oui, voilà. Et le pauvre gars qui est sur le canapé se retrouve plein de bière.
Mais mort de rire.
Oui, mais mort de rire. D'ailleurs, il y a un petit piège qui est très amusant. En fait, le robot glisse sur une peau de banane dans la vidéo. On le voit, mais s'affaler, mais vraiment bêtement. Et puis, il se relève tranquillement et il repart. C'est assez impressionnant. Merci, Cécile. On enchaîne avec Constance.
Alors moi, je vais complètement changer de sujet et vous parler de quelque chose qui a été découvert à l'Impact Journalism Day le 25 juin dernier. En fait, des chercheurs taïwanais ont présenté une application de traduction d'un nouveau genre qui s'appelle le Baby Cries Translator. Alors oui, vous avez bien compris, François, il s'agit bien d'une application pour décrypter les cris des jeunes nourrissons. Alors, il aura fallu 2 ans de recherche quand même aux chercheurs taïwanais et l'aide de nombreux pédiatres pour aboutir à cette application qui se base en fait sur un algorithme de reconnaissance. En fait, pour maximiser les chances de traduction, ils ont intégré déjà en avance 200 000 cris de bébés différents qui ont été intégrés à l'application. Et à chaque fois qu'un nouvel utilisateur enregistre le cri de son bébé, il est ensuite ajouté à la base de données et il renseigne quelle était la cause supposée du cri, permettant d'avoir ainsi un grand pool de comparaison de cris. Alors, il faut à peu près 15 secondes pour savoir ce que votre bébé essaie de vous dire. Voilà, que ça peut être une petite faim, l'envie de dormir ou de changer la couche. Et ainsi, les jeunes parents peuvent être rassurés sur le besoin de leur enfant qui, souvent, lorsqu'il est jeune, a du mal à communiquer. Alors, il faut savoir que la précision maximale est entre 2 semaines et 6 mois. C'est même 92% de précision à 2 semaines. Et plus le temps passe, plus le niveau de précision baisse. Par exemple, à 4 mois, elle n'est plus fiable qu'à 77%.
Ah oui, tiens.
Voilà, après avoir identifié la cause des pleurs, encore faut-il les arrêter. Et ça, l'application ne le permet pas encore de le faire.
Il n'y a pas un système une berceuse
qui permet de mettre
quelque chose
en off, ou de le faire taire. Ça coûte seulement 3 euros et c'est disponible sur l'Apple Store.
Oui, parce que rappelons qu'un bébé n'est pas Bluetooth. Hein. Ce n'est pas parce qu'on le commande depuis une application qu'il va s'arrêter.
Voilà, il reste encore du progrès à faire dans la recherche.
Merci beaucoup, Constance.
Merci, François.
On revient dans un instant pour la suite de cet atelier. Vous restez avec nous. On est là dans une minute. Startup de la semaine, Paycar et notre enquête. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
C'est l'atelier numérique sur BFM Business, votre rendez-vous dédié aux nouvelles techno. Dans quelques instants, nous irons au salon Vivatech, porte de Versailles à Paris avec Lila Megrawa. Mais auparavant, notre start-up de la semaine. Et il s'agit, Lila, de Pécard. C'est le chèque de banque 2.0.
Oui, François. Alors, pour cette start-up de la semaine, on va s'intéresser à la start-up Pécard. Vincent Marty Lavezel, bonjour.
Bonjour.
Alors Vincent Marty, vous êtes cofondateur de, comme je disais, la start-up Pécard. Et vous, vous aspirez quelque part à faire fi, à remplacer le chèque de banque dans le cas de transactions liées aux voitures d'occasion.
Tout à fait. En fait, on veut même aller plus loin. Notre but, c'est de simplifier, de sécuriser toutes ces transactions. Aujourd'hui, la majorité de ces transactions se passent par le chèque de banque. Le chèque de banque, c'était un moyen totalement sécurisé il y a quelques dizaines d'années. Aujourd'hui, avec l'évolution des technologies, les reproductions, les faux, il n'est plus assez sécurisé. Surtout, il est devenu compliqué à utiliser. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, un chèque de banque, le vendeur n'a plus totalement confiance. Il doit le vérifier. Le vérifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre le chèque de banque tendu par l'acheteur, appeler la banque de l'acheteur, donc faire sa transaction pendant les horaires d'ouverture de la banque pour pouvoir joindre la banque de l'acheteur. C'est stressant, c'est compliqué, c'est pas sécurisé. On a inventé un moyen simple et sécurisé de faire sa transaction.
Et alors comment ça fonctionne concrètement?
C'est assez simple, l'acheteur et le vendeur vont s'inscrire sur notre plateforme, leur identité va être vérifiée, l'acheteur va ensuite virer les fonds de son compte en banque à son compte Pécard sans bouger de chez lui. Le jour de la transaction, sur un parking, chez l'acheteur, chez le vendeur, depuis son smartphone, l'acheteur va transférer en quelques clics instantanément les fonds au compte Pécard du vendeur. Les deux vont recevoir un SMS pour confirmer la transaction et le vendeur va se connecter à son compte Pécard, va vérifier que les fonds sont bien crédités sur son compte et il va pouvoir donner les clés en toute sécurité. Tout le monde sera content et sécurisé.
Donc en gros, quelque part, vous faites office de compte en soi?
Tout à fait. En fait, on peut voir Pécard comme un compte bancaire à usage unique. On est un compte de séquestre. On offre le plus fort niveau de sécurité pour ces transactions. Et c'est un moyen simple et totalement sécurisé de faire sa transaction.
Alors, comment vous monétisez?
Alors, c'est simple. Aujourd'hui, on va prendre 20 euros de frais à l'acheteur, 20 euros de frais au vendeur, ce qui fait 40 euros par transaction, ce qui nous paraît une somme relativement raisonnable compte tenu des montants échangés.
What's next? Pour vous, alors aujourd'hui vous êtes accéléré à l'accélérateur de BNP Paribas au Y Paris. C'est quoi la prochaine étape pour Pécard?
Alors aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'être connu, d'aller plus fort, d'aller plus vite et d'aller mieux. Aujourd'hui, on est en discussion avec pas mal de partenariats, notamment on est accéléré par le groupe BNP Paribas, donc on a notamment des discussions de business développement avec le groupe, mais aussi de levée de fonds, il y avait d'autres acteurs, donc je pense que vous aurez des news d'ici quelques temps sur Pécard.
Aujourd'hui, Pécard opère en France, est-ce que demain ça pourrait être accessible partout en Europe, partout dans le monde?
Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la problématique du paiement des véhicules d'occasion, la problématique, elle est partout dans le monde et partout en Europe. Donc Pécard aujourd'hui n'est qu'en France, mais sera très rapidement à l'Europe parce que le système est déjà prêt pour être déployé au niveau européen. Et cette problématique, elle est partout en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, l'achat d'une voiture d'occasion, c'est la deuxième dépense la plus importante d'un ménage. Donc c'est un acte très fort et il y a à peu près 25 millions de transactions en Europe.
Donc, prochain marché, est-ce que ça pourrait être l'Allemagne? Moi, j'ai souvenir de parents qui pouvaient aller en Allemagne pour se procurer leur véhicule d'occasion. Est-ce que ça, c'est un marché que vous regardez avec attention?
Alors, on le regarde avec attention, un, parce que c'est intéressant, et deux, surtout parce qu'on nous le demande. En fait, aujourd'hui, on a tous les jours des gens qui nous disent « Je veux aller acheter ma voiture en Allemagne, est-ce que votre service est déjà disponible en Allemagne ?» Aujourd'hui, on doit répondre non, mais demain, ça sera plus le cas. Pareil, on a aujourd'hui pas mal, par exemple, des Hollandais qui viennent nous démarcher parce qu'ils viennent chercher leur voiture en France. Est-ce que je peux payer ma voiture avec votre système? Et ça, le but, c'est de répondre oui à tout le monde très rapidement.
Eh ben Vincent Marty Lavezel, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes cofondateur de la start-up Paycar. Merci.
Merci à vous.
Et après notre start-up de la semaine, Lila, notre enquête de l'atelier, direction Porte de Versailles à Paris, pour découvrir ce salon Vivatech. Vous y êtes, Lila?
Oui, effectivement, François. J'ai fait un tour à Vivatech, nouveau rendez-vous, s'il en est, de la tech en France. Alors, la particularité de cet événement, c'est qu'il réunit à la fois grands groupes et start-up. Alors, les deux premiers jours, ce sont... on peut le dire, se succéder du beau monde. Vous avez eu le patron Cisco, Eric Schmidt de Google, Alphabet. Et je vous ai réservé une surprise. J'ai un invité assez exceptionnel à mes côtés à vous présenter, mon cher François et chers auditeurs. Il s'agit de David Marcus, qui est le patron monde du Messenger de Facebook. Et on va parler dans quelques instants avec lui de chatbots. Alors les chatbots sont dans toutes les bouches en ce moment, KLM, Voyage SNCF et maintenant même Mythique, aujourd'hui ont lancé leur propre bot sur Messenger. Alors, le chatbot ou agent conversationnel, c'est, vous savez, c'est ce personnage virtuel qui dialogue avec l'internaute afin de l'aider dans sa navigation ou son processus d'achat. Alors cet engouement peut sans doute s'expliquer par l'arrivée de Facebook sur le sujet il y a 2 mois et demi. Alors à ce jour, il y a déjà plus de 11 000 chatbots qui ont déjà été développés sur Facebook. En ce moment même, vous avez plus de 21 000 développeurs qui travaillent à leur chatbot Messenger. Croyez-moi, il s'agit bien là d'une révolution qui est en marche.
L'atelier numérique sur BFM Business.
David Marcus, vous êtes VP Monde de Messenger. Bonjour.
Bonjour.
On a fait pas mal de sujets dernièrement dans l'émission autour des chatbots. Comment vous expliquez en fait cette folie autour des chatbots, alors qu'au final, les chatbots, c'est pas quelque chose de forcément très, très nouveau?
Alors, c'est pas très nouveau dans la définition traditionnelle du terme. Dans la définition nouvelle du terme, depuis à peine 2 mois et demi, depuis qu'on a ouvert la plateforme Messenger, c'est vraiment très nouveau. Et je pense que c'est l'engouement provient du fait, quand on a une plateforme de près d'un milliard d'utilisateurs qui s'ouvre et qui permet à des développeurs d'inventer des nouvelles expériences qui n'existaient pas auparavant, ça crée beaucoup d'engouement et d'enthousiasme. Donc je pense que à court terme, c'est peut-être un peu overhyped, comme on dit, un peu exagéré à court terme. À long terme, c'est underhyped. Je pense qu'il y a tellement encore de choses à faire, il y a tellement de potentiel à très long terme et à moyen terme. Et d'ailleurs, on le voit, les premières expériences de bots n'étaient pas forcément très convaincantes, mais maintenant, les nouvelles expériences, après deux mois et demi de lancement, commencent à être vraiment de qualité. Les gens commencent à vraiment les utiliser, commencent à vraiment interagir. On est optimiste.
Effectivement, on est au tout début, mais qu'est-ce qui pourrait faire, selon vous, de ce que vous voyez déjà, des exemples, un bon bot, un bon use case?
Alors, on a plusieurs use cases qui sont très intéressants. Aux États-Unis, la NBA a lancé un bot qui permettait à la fin des matchs de recevoir les highlights en fait du jeu, donc les highlights en vidéo du jeu, les moments les plus importants et les plus marquants. On a un partenariat maintenant avec American Express, où American Express a développé un bot où à chaque fois que vous utilisez votre carte, vous recevez une notification dans Messenger avec le marchand et le montant, mais aussi des informations. Donc si vous voyagez et que vous venez d'acheter votre ticket avec un point de départ avec un aéroport, et ils vont vous envoyer la carte de l'aéroport, ils vont vous donner des recommandations de restaurants pour votre destination et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment un usage qui ajoute de la valeur dans la vie de tous les jours. En France, on a Mythique qui a lancé un bot qui marche très bien pour eux et qui est, même si c'est au tout début, qui est très prometteur. Cheers, où vous pouvez faire imprimer vos photos assez rapidement avec une interaction qui est vraiment facile. Et puis toute une série de bots de news, de nouvelles, où vous pouvez vraiment recevoir les informations qui vous intéressent, qui vous passionnent, au moment où elles se passent, vraiment rapidement, dans Messenger également. Et donc la liste est vraiment longue de nouveaux usages qui sont en train de se développer, qui vraiment commencent à être de qualité et qui trouvent du succès et de l'engouement.
Donc demain, Messenger et ses bots, est-ce qu'on pourrait imaginer un bot qui agrégerait quantité de mes bots préférés, qui pourrait m'accompagner au cours de la journée, à savoir m'assister dans mon shopping, m'assister dans la gestion de mes rendez-vous. Est-ce que vous voyez ça?
Alors c'est peut-être une évolution de M, notre assistant digital pour lequel on utilise une approche hybride de trainer, on va dire humain, avec l'intelligence artificielle. Donc c'est potentiellement une évolution. On est en train de travailler sur différentes variantes et c'est peut-être ce que M deviendra dans les années à venir.
Alors aujourd'hui, un service égale une application. Est-ce que vous pensez que les chatbots vont être complémentaire des apps, ou est-ce qu'on peut d'ores et déjà prédire la mort des applications, du moins telles qu'on les connaît?
Alors il y a un peu des deux, c'est-à-dire que on télécharge de moins en moins d'applications et là vraiment les chiffres sont parlants. La grosse majorité des applications qu'on télécharge ne sont pas ouvertes plus qu'une fois. Celles qui ne trouvent pas grâce à notre première page, notre homepage de notre téléphone, généralement ne sont jamais utilisées ou très peu utilisées, et donc on passe notre temps dans 4 à 5 apps et le reste pas vraiment, et donc on a une vraie possibilité d'offrir une alternative aux apps et au mobile web, au site web mobile, pour lesquels à chaque fois vous devez vous identifier, à chaque fois vous devez recommencer à zéro une expérience, en créant un nouvel espace dans les conversations dans Messenger qui permettent aux entreprises et aux développeurs de créer des nouvelles expériences. Et donc je pense que si vous êtes une entreprise qui a une des 5 à 10 apps que les gens utilisent tout le temps, ce sera complémentaire. Si vous êtes l'une des autres, ça pourra remplacer au fil du temps votre application existante en ayant beaucoup plus d'utilisateurs, beaucoup plus rapidement, puisque dans Messenger, vous avez l'information et le contexte au bon moment avec la notification, etc. Et donc, vous avez un usage qui va être fondamentalement facilité par rapport à l'utilisation d'une application ou d'un site web mobile.
Alors, dans une interview que vous avez donnée récemment au Time, vous allez même plus loin. Vous dites que les chatbots pourraient même tuer les numéros de téléphone. Comment ça?
Alors, on parlait pas des chatbots. Là, je parlais pas des chatbots. Je parlais de... En fait, aujourd'hui, si on inventait la communication aujourd'hui, en 2016, je peux vous garantir qu'on donnerait pas des numéros de téléphone aux gens. Cette série de chiffres donnés de façon complètement aléatoire aux gens pour qu'on puisse vous trouver, à mon sens, n'a plus de raison d'être. Ou certainement n'aurait pas de raison d'être si on créait la télécommunication aujourd'hui. Et donc ça n'a rien à voir avec les chatbots, mais on pense vraiment que on a une vocation maintenant avec sur la plateforme Facebook en général 1,65 milliard d'utilisateurs actifs, et toutes ces personnes on peut les trouver finalement sur Messenger et communiquer avec. Qui a besoin d'un numéro de téléphone dans ce cadre-là? Donc c'est la question que je pose.
Donc plus de carte de visite non plus, je vais donner directement mon Facebook et mon Messenger?
Ah non, vous pouvez maintenant scanner un code, donc c'est encore mieux. Dans Messenger, vous avez un code que vous pouvez scanner si vous êtes en personne, ou un petit URL que vous pouvez attacher à vos emails, vos sites web, etc. Donc voilà, un clic ou un scan et vous êtes connecté.
Comment vous travaillez aujourd'hui avec les entreprises pour les accompagner dans leur intégration, leur développement de chatbots à la Facebook?
Ben écoutez, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de vraiment développer un écosystème où il y a des startups, des entreprises, etc., qui peuvent fournir ce service aux entreprises qui n'ont pas des capacités internes de développement. Comme à l'ère du web, où on avait des web agencies qui se sont montées pour aider les entreprises à avoir leur site web, ou encore plus récemment avec les apps, on pense que c'est une vraie opportunité non seulement de création d'emplois, mais aussi de création d'entreprises qui pourront aider les grosses entreprises et petites entreprises à faire face à cette nouvelle opportunité.
Parlons business model. Quel est le business model que vous envisagez?
Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de business model très développé, et on n'est pas vraiment pressé de développer un business model, mais il y a deux approches. Il y a une approche, si vous avez développé une expérience de qualité, le meilleur endroit du monde pour faire connaître votre expérience de qualité, ça reste Facebook, le newsfeed. Et donc, des pubs dans Newsfeed qui amènent de nouveaux clients vers votre bot, votre expérience dans Messenger, c'est quelque chose qui va se passer. Et puis après, la possibilité de réengager les utilisateurs pour lesquels les conversations deviennent passives. Ce sera aussi, à terme, un business model de réengagement, comme dans les médias un peu plus traditionnels, enfin comme des supports un peu plus traditionnels. Donc voilà, deux axes pour l'instant.
Quelles sont les prochaines étapes pour Messenger?
Alors les prochaines étapes, au niveau utilisateur, c'est de continuer à développer de plus en plus de fonctionnalités qui permettent d'enrichir la conversation, de permettre plus de conversations en temps réel, etc. Et de partager plus souvent et plus fréquemment. Et puis au niveau de la plateforme, c'est vraiment de continuer à enrichir la plateforme pour permettre aux développeurs de créer des expériences aussi beaucoup plus riches, beaucoup plus visuelles au sein des conversations dans Messenger. Et donc on a fait un premier update de la plateforme aujourd'hui, où on a une première livraison, on va dire, de goodies pour les développeurs qui peuvent maintenant enrichir leur conversation avec de nouveaux éléments, et on va continuer à le faire de façon active.
Eh ben, merci beaucoup, David Marcus. Je rappelle, vous êtes VP Monde de Messenger. Merci.
Merci.
Lila, merci. On revient dans un instant avec notre web stratégie. Vous saurez tout sur made.com. Si vous aimez la déco, vous connaissez ce site. À tout de suite.
L'atelier numérique.
L'atelier numérique.
François Sorel sur BFM Business.
Dans quelques instants, dans cet atelier, nous évoquerons le droit des robots dans notre passion selon Sanet avec Jérémy Bensoussan, avocat à la Cour d'appel de Paris. Mais auparavant, notre web stratégie, on va découvrir donc le pure player made.com, Lila Megraoua.
L'atelier numérique sur BFM Business, la web stratégie.
Oui, François. Alors, pour cette web stratégie, on va passer de l'autre côté. Savoir qu'on va parler de la transformation, quelque part, d'un pure player. Donc, d'abord en ligne, un site d'e-commerce bien connu, britannique, mais qui, figurez-vous, a été fondé par deux Français, Cocorico, made.com. Pour parler de cette transformation, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ning Li. Bonjour.
Bonjour.
Alors, Ning Li, vous êtes cofondateur et PDG de made.com. Cette semaine, vous avez ouvert un showroom connecté en plein cœur de Paris. Alors, comme je disais au début, vous êtes quand même réputé en tant que site d'e-commerce. Pourquoi passer du digital au physique?
D'abord, en fait, c'est pas un lieu classique, comme vous dites, une boutique. On voit ça plutôt comme un espace de showroom ou un espace d'expérience client, puisque aujourd'hui, si vous venez ici, le but principal, c'est de créer une interaction, une expérience et aussi un rapport physique avec la marque, plutôt que vous vendre un produit. En effet, vous pouvez pas acheter des produits dans cet espace-là. La raison pour nous d'avoir lancé un espace physique à Paris, après presque 4 ans d'existence sur le marché français, c'est vraiment suite à une demande d'une partie de clients qui veulent vraiment sentir et toucher le produit avant de passer à l'achat. La marque a très bien fonctionné jusqu'à là, puisqu'on a réalisé des croissances très fortes, non seulement en France, mais partout en Europe. Aujourd'hui, on réalise 50% de croissance l'année dernière et on réalise quasiment une transaction à la minute partout en Europe. Donc, tous les minutes, il y a quelqu'un qui achète un canapé, une table ou quelque chose sur notre site. Et 100% de ces gens-là achètent en ligne sans avoir besoin de passer par un espace physique. Donc, c'est plutôt un luxe pour nous aujourd'hui de pouvoir se dire la vente, c'est important. Mais c'est encore plus important pour nous de créer une marque pérenne et créer une expérience client positive, de générer un peu de buzz.
Alors, j'imagine que vous ne pouvez pas exposer tous vos modèles. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu comment s'organise ce lieu, Ning?
Bien sûr, oui. C'est un espace 840 mètres carrés. Et donc c'est le plus gros showroom qu'on gère aujourd'hui. Et malgré la taille de 840 mètres carrés, aujourd'hui on a probablement 2% de notre catalogue dans cet espace-là. Donc vraiment une fraction de pouvoir acheter en ligne. Alors après, c'est important de montrer la qualité à les clients pour les rassurer. Mais si on voulait montrer tous les produits, il faudrait louer le Stade de France.
Alors, par exemple, on a une espèce d'espace où vous avez quantité d'étiquettes avec, allez, on va dire 200 produits différents. Et le principe est assez simple mais efficace, à savoir que le client va pouvoir attraper son étiquette avec la photo du produit et surtout embarquer un bout de tissu.
C'est bien ça, oui. En fait, le principe, c'est de relier à chaque objet visuel, donc que ce soit un objet physique, un canapé, une table, ou ce mur de carte postale. Donc, vous avez derrière moi là un mur avec 300-400 produits qui sont imprimés en carte postale, mais ils sont chacun connectés via une technologie NFC à notre site. On fournit en fait un ensemble de tablettes à tous nos clients ici qui se baladent avec. Et avec ces tablettes-là, ils touchent le tag NFC et l'information technique et commerciale affiche pour le client. Donc chaque objet physique ici est connecté au web. Et c'est un peu le pilier de conception de ce showroom.
Vous avez déjà l'expérience de showroom, notamment en Angleterre. Vous en avez trois. Il y en a un à Amsterdam. Est-ce que de ce que vous avez observé, ces showrooms peuvent vous permettre de tester le succès de certains produits auprès du public et d'ajuster?
Alors, c'est plutôt l'inverse. Parce qu'en fait, ce qui est plus facile à tester quand il s'agit de tester les produits, c'est vraiment l'Internet. Parce que quand on lance un nouveau produit sur Internet, on prend une photo d'un nouveau produit et c'est en ligne. Il y a vraiment pas d'engagement. Une fois le produit est testé sur le site Internet et s'il s'avère un produit qu'on veut garder, parce que tous les produits qu'on lance ne seront pas gardés sur l'Internet, alors ils sont présents dans l'espace physique. C'est plutôt dans l'autre sens que ça marche.
Et donc c'est aussi à la fois c'est un lieu d'innovation, de showroom, mais ça reste aussi un lieu de vente.
Bien sûr, oui. Nous avons aussi 10 Macs dans l'espace et les clients se servent d'eux-mêmes.
Alors on l'a dit, lieu de showrooming, lieu de vente. Est-ce que quelque part chez Made.com vous faites un pari du magasin comme lieu de vie, le brand store comme lieu de vie?
Bien sûr, c'est puisque Made.com se positionne surtout dans l'univers de la maison, donc c'est un espace de vie par définition. C'est un espace de vie parce que la vente reste un objectif à terme, mais c'est pas l'objectif primaire de cet espace-là. C'est d'abord une expérience client. Et dans cette optique-là, non seulement nous avons introduit un espace plutôt relax, donc il y a plus personne qui vous pousse à l'achat. On a aussi introduit les partenaires de café. Donc, on a un petit café dans le véranda ici en collaboration avec Coutume Café, qui est un artisan de café à Paris, et puis Ikebana, qui est aussi un concepteur de composition d'art floral, qui font vraiment partie de l'espace de vie et de collaboration.
What's next pour Made.com?
Alors, vous savez, aujourd'hui, quand on regarde autour, dans notre industrie, en tout cas, de l'univers d'ameublement et de déco, il n'y a pas beaucoup de marques aujourd'hui qui ont réussi le pari international. La seule marque, en fait, que je connais, c'est IKEA, qui est vraiment une marque globale. Et très souvent, vous avez IKEA et un champion national dans beaucoup de pays. Et aujourd'hui, Made, on a eu la chance d'avoir réussi le lancement dans 7 pays en Europe. Et ça, notamment grâce à Internet, qui nous permet de lancer les nouveaux pays sans forcément engager des coûts très importants comme le font les retailers traditionnels. Donc l'ambition aujourd'hui et la next step, c'est vraiment de faire de cette marque qui est aujourd'hui anglaise ou européenne une marque internationale. Un peu façon qu'a fait un IKEA, mais avec une approche beaucoup plus adaptée à l'ère du temps et à la technologie d'aujourd'hui.
Merci beaucoup Ning Li. Je rappelle, vous êtes cofondateur et PDG de Made.com. Merci.
Merci Lila, on revient dans un instant. Et dans une minute, on va s'intéresser aux droits des robots. Et oui, il faut s'en soucier dès maintenant. À tout de suite.